BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Focus Retail qui décrypte les tendances et les actualités du secteur. Et aujourd'hui, ce sera un numéro très sportif et ça tombe bien car nous sommes encore en période de vacances au ski, un segment porteur pour Seraclès Coopérative, anciennement Sport 2000. Un an après leur restructuration, où en sont les objectifs du groupe? Je recevrai Emmanuelle Bayot, elle est directrice générale de Seraclès Coopérative, entrepreneur commerçant. Et puis, dans un deuxième temps, on ira faire un tour du côté d'un nouveau marché peu développé en France, celui de la longévité et de la récupération, un segment pourtant très en vogue aux États-Unis. Jules Bouscatel a mis au point un nouveau club, mais ce n'est pas vraiment un club de sport. Il viendra tout nous expliquer. Restez avec nous, Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Emmanuelle Bayot, bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes la directrice générale de Seraclès Coopérative, entrepreneur et commerçant, anciennement groupe Sport 2000. Bienvenue sur le plateau de Focus Retail. Notre expert retail sur ce plateau, c'est vous, Mélanie Effroy, directrice commerciale de Média Performance. Alors, nous sommes début mars, alors que certains reviennent de leurs vacances au ski. Il n'est pas trop tard quand même pour les retardataires. Il y a de la neige, il y a du soleil et les vacanciers sont au rendez-vous. Certaines stations d'ailleurs battent des records de fréquentation. C'est le cas notamment de Font-Romeu dans les Pyrénées qui devrait dépasser les 600 000 forfaits vendus cet hiver. Emmanuel, tout cet engouement, ça se ressent dans les magasins Sport 2000 ?
Tout à fait. Donc là, en parlant de la montagne, effectivement, on a des évolutions à deux chiffres. C'est une saison assez extraordinaire. Et nous avons deux enseignes à la montagne, donc Sport 2000 et aussi EcoSport Rent, qui est une jeune enseigne. Et nous avons maintenant 55 magasins dans cette enseigne.
Vous sentez que vous ne pouvez pas nous donner les chiffres, j'imagine que c'est trop tôt, mais vous pensez battre des records, vous aussi ?
Ah ben là, on cartonne complètement. Évolution à deux chiffres, et parfois presque plus. Mais bon, voilà, on attend la saison est encore longue, mais on a effectivement du soleil, de la neige, et des skieurs, c'est génial.
Alors, vous nous parlez d'EcoSport Rent, une enseigne que vous avez lancée il y a quelques années. C'est assez récent, effectivement. Vous avez justement récemment réorganisé tout ça. Pourquoi ce choix ?
Parce que on a voulu déjà séparer la gestion et le développement de ces deux enseignes, parce que ce sont deux enseignes qui ont des degrés de maturité complètement différentes, et donc quand une enseigne est en développement, voilà, on a voulu mettre on peut pas être spécialement schizophrène de gérer deux enseignes avec des degrés de maturité différents. Donc on a décidé de faire une direction d'enseigne Sport 2000 à la montagne et une direction d'enseigne EcoSport Rent.
Alors, la location de ski, c'est un enjeu majeur pour Sport 2000. Ça commence très tôt, dès le mois de janvier. Et ici, c'est vrai que la part du digital prend de plus en plus d'ampleur. Justement, qu'est-ce que ça représente entre les locations en physique et les locations en digital ?
Alors, déjà, la location chez nous, ça pèse pratiquement deux tiers du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une première chose. Et après, c'est vrai que la location par nos sites e-commerce, ça draine plus de 70% aussi du business. Tout à fait. Donc oui, il y a des clients qui viennent dans nos magasins directement quand ils sont en station, mais il y en a beaucoup qui prévoient en amont leur location de ski.
Mélanie.
Le fait que vous ayez des magasins indépendants, est-ce que c'est un atout stratégique pour vous ?
Tout à fait. Alors, il y a la force du collectif, parce qu'on est une coopérative, mais ça permet d'appuyer le commerce au niveau local. On dit, on va chez Sport 2000 ou chez EcoSport Rent. Néanmoins, à la montagne, c'est je vais chez Jean-Pierre ou chez Paul. Donc, il y a vraiment un ancrage local. Et nos entrepreneurs qui sont en montagne, ce sont des locaux qui connaissent très bien les territoires.
Alors c'est vrai qu'entre le début de la saison de ski et la fin des vacances de Noël, les ventes dans les magasins de... Non, entre le début de la saison et la fin des vacances de Noël, les ventes dans les magasins de sport de montagne ont progressé de 13%. Ce sont des chiffres de l'Union Sport & Cycle, des magasins donc qui sont dépendants de la saisonnalité. 85% du chiffre d'affaires est fait pendant cette période hivernale. Pourtant, on sent et on voit que l'été prend de plus en plus d'importance. Est-ce que c'est devenu un vrai terrain de conquête ?
Tout à fait. Et quand on parle de différenciation tout à l'heure, de stratégie d'enseigne, c'est vrai que sur l'enseigne EcoSport Rent, on est en train de développer des events, des événements pour la période estivale. Tout à fait.
Ah, j'allais y venir. Alors, quoi comme sorte d'événement, justement?
On est en train de créer des événements autour du trail, autour du running, autour du vélo en montagne. Donc oui, on réinvente et de nouveaux métiers ou d'événements pour pouvoir faire du business dans nos montagnes pendant l'été.
Et toujours autour de l'outdoor, hein. Du running, du trail.
Oui. C'est les cœurs de métiers qui sont, voilà. Mais on peut être encore plus inventif.
Mais justement, est-ce que vous sentez le vent des nouvelles tendances? C'est vrai qu'on parle de running, on parle de trail, on parle de la marche à pied, hein, qui fonctionne toujours autant. Mmh. Qu'est-ce que vous sentez d'autre arriver?
Au-delà des catégories, c'est surtout le fait que le sport se fait l'été en famille. De plus en plus, tout le monde va faire les randonnées, la marche nordique tous ensemble, le trail, les gens courent en couple ou en groupe. Donc c'est aussi, au-delà des nouveaux sports qui arrivent, et il y aura toujours des nouveaux sports et c'est génial, mais c'est aussi la façon de faire ces sports-là qui sont un peu moins solo et plus en groupe.
Mmh. Alors, le secteur autour des enseignes de sport est en train de bouger. Hein. Décathlon, longtemps numéro un, commence à se faire rattraper par Intersport, qui gagne en attractivité avec des prix attractifs et surtout des marques propres. Vous, Séraclès, avec ce grand plan de transformation initié l'année dernière, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Sur quoi est-ce que vous misez pour vous différencier?
Alors, on va souffler effectivement la première bougie, mais je rappelle bien que ce plan, c'est un plan de transformation et d'accélération 2030. Ça s'appelle Sprint 2030. Donc, tout n'est pas réalisé à date. Hein. On est vraiment sur 2030. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que l'on a réalisé? Je vous avais parlé effectivement la dernière fois qu'on avait réorganisé nos pléthores d'enseignes que l'on a, parce qu'on a 6, voire 7 enseignes. Je vais vous expliquer pour ça. Pourquoi? Pardon, excusez-moi. C'est par rapport à des verticales, des nouveaux territoires. On a maintenant donc des enseignes sport. Donc là, Sport 2000, Mondo Vélo, EcoSport Rent, Espace Montagne. On a des enseignes qui sont Lifestyle, Oise et S2. Et on vient de créer, avec un partenariat avec Urban Soccer, donc on vient de créer un territoire salle de sport avec Urban Soccer qui est leader sur tout ce qui est football à 5, paddle, et ils font aussi même de l'escalade en salle, ce qui nous permet, nous, d'aller chercher les pratiquants dans des lieux de vie de sport. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. On continue notre diversification au niveau de Séraclès Coopérative. D'autres exemples?
Oui, bien
si
sûr.
Si vous voulez. Hein.
Allez-y.
Positionnement de Sport 2000. Hein. C'est comment on passe d'une enseigne, alors je vais être un petit peu provocateur, quand je dis de distributeur à une marque enseigne. Donc on a travaillé tout le positionnement de l'enseigne Sport 2000. On a changé la baseline, donc maintenant ça s'appelle le sport comme style de vie, Sport 2000, le sport comme style de vie. Pourquoi? Parce que on va pas chercher que le sport performance, on va aussi aller chercher le sport style. Donc on a un client sur deux qui va chercher effectivement des produits très sport, mais dans nos magasins Sport 2000 en pleine, nos clients viennent aussi chercher tout ce qui est autour du sport, mais pour s'habiller, pour être confort. Donc c'est voilà, on a bien remis ce positionnement et on a aussi fait une campagne de communication que vous avez peut-être vu dans le métro à Paris ou dans nos grandes villes, dans grosses agglomérations en France. Et l'idée, c'était d'arriver avec quelque chose de décalé, une création décalée par rapport à ce qu'on faisait auparavant, et puis de dire que le sport, on en fait tout le temps. Donc, on est vraiment dans le réflexe du quotidien.
Et cette notion de lifestyle et d'athlétisme qu'on verra avec vous, Mélanie, pour votre focus. Justement, une question, Emmanuel, autour du commerce des articles de sport qui a signé un début d'année assez encourageant avec un secteur qui enregistre une croissance de plus 3,7% en janvier 2026 par rapport à janvier 2025, porté notamment par un retour de la dynamique en magasin et du rebond du textile. Comment est-ce que vous expliquez cela, puisque c'est quand même à contre-courant par rapport au secteur du prêt-à-porter qui, lui, est plutôt sur une tendance qui décline?
Je pense qu'effectivement, le sport, de toute façon, c'est quelque chose, c'est moteur. Donc, la catégorie du sport est moteur. Et nous, on vend aussi des produits de sport style. Donc, je pense que le trafic se fait via l'angle sport.
Mais vous notez ça justement, un engouement dans les chiffres, dans les ventes sur du lifestyle, du sport style, de l'athlégeur finalement ?
Tout à fait, tout à fait. Donc je suis venue en veste aujourd'hui et chemisier, mais très souvent je suis habillée avec un sweatshirt. Donc c'est vrai que depuis le Covid, il y a eu aussi une autre façon de s'habiller pour aller aussi bien travailler que pour dans son quotidien. Donc, il y a eu un changement de comment on passe de la mode au sport style.
Mélanie.
Alors, j'avais une question tout à l'heure, vous parliez de vos clients et je me demandais dans quelle mesure l'IA, la data, pouvait transformer l'expérience client dans vos magasins.
Alors, de toute façon, au-delà, quelles que soient les entreprises, aujourd'hui, on est tous sur la data. Mm-hmm. Hein, c'est l'or noir, hein, très clairement, de toutes les entreprises. Hein. On fait rien sans. Et l'IA, ça permet d'aller beaucoup plus sur de la productivité. Ça va permettre, effectivement, d'être beaucoup plus sur des... On est beaucoup plus efficient. Et là, je parle en termes d'organisation au niveau de l'entreprise. Après, concernant les clients, c'est vrai que nos clients, de plus en plus, avant d'aller en magasin, ont tendance à aller au niveau digital, sur l'IA, à faire des moteurs de recherche maintenant sur l'IA. Hein, on fait plus que sur Google. Maintenant, on va sur nos moteurs de recherche sur ChatGPT et d'autres outils d'IA. Et donc, ça change, ça donne beaucoup plus de pouvoir. Ça donne beaucoup plus de au niveau de nos clients. Quand je dis pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont presque une meilleure connaissance parfois que nos propres vendeurs. Alors pas dans les enseignes de Seraclès coopérative où on est vraiment dans la proximité et tout, mais il faut faire attention, nous en tant que retailers, que nos vendeurs soient complètement connaissent très très bien les marchés, les catégories et les produits phares.
Vous avez mis justement en place des espèces de shoppers virtuels ou sur votre site e-commerce, parce que vous avez aussi une grande ambition sur l'e-commerce, plus 15% de votre chiffre d'affaires dessus. Là, vous en êtes où d'ailleurs, un an après ?
Ah ben, on a multiplié par 3 depuis un an notre chiffre d'affaires sur le e-commerce. Et comme je vous disais, c'est un plan, donc on va avancer et on va encore plus accélérer. On n'est pas encore sur ce genre de services auprès de nos clients à l'instant T, mais c'est des choses bien évidemment qui sont dans les tuyaux.
En revanche, tous ces changements, ça vous a demandé aussi de modifier l'offre en magasin. Vous nous aviez expliqué plus de robes à fleurs dans les Sports 2000. Vous nous aviez confié aussi être très intéressé par TikTok Shop. Vous avez tenté l'immersion ?
Oui. On a fait un test. Et après, sur l'offre, en niveau des magasins, effectivement, on est en train de resserrer nos gammes au niveau de toutes nos enseignes, ce qui permet effectivement d'être plus efficace. Aussi bien pour la massification au niveau des achats, etc., etc.
Merci beaucoup Emmanuel, restez avec nous, on a encore des questions, mais on passe tout de suite au focus de notre experte. Alors c'est vrai qu'on vient d'en parler, hein, Mélanie, de cette tendance du lifestyle, du sportswear, de l'athlégeur. Concrètement, pourquoi est-ce que cette tendance change la donne pour les retailers ?
Alors je dirais que c'est plus qu'une tendance, c'est une rupture qui s'est opérée. À l'heure actuelle, il y a un acheteur sur deux d'articles de sport qui finalement l'utilise en dehors du contexte sportif, que ce soit pour travailler, vous nous en parliez, mais aussi pour sortir, pour voyager. Et c'est un marché qui pèse lourd, c'est quand même 17 milliards d'euros en 2025, avec une croissance à 10% sur les deux dernières années. Donc très clairement, les retailers ont compris qu'il y avait une vraie opportunité à créer de nouvelles opportunités d'achat finalement.
Ces chiffres, ça les oblige finalement à repenser leur stratégie.
Alors, en l'occurrence, on a de plus en plus de marques spécialistes qui créent des gammes de lifestyle et notamment qui repensent leur stratégie retail. C'est l'exemple de Salomon qui est très connu depuis toujours comme étant l'expert des vêtements de sport sur le grand air. Et en l'occurrence, ils ont ouvert en fin d'année dernière un showroom de plus de 1500 m² en plein cœur de Paris pour réconcilier finalement l'outdoor et l'urbain. Et on a d'autres exemples, Arc'teryx par exemple, qui, comme Rossignol, sortent dans leur vitrine des vêtements casual régulièrement.
Là, on parle des généralistes, mais ça concerne... Non, on parle des spécialistes, ça concerne aussi les généralistes.
Tout à fait. Alors, chez les généralistes, là aussi, une vraie opportunité, parce que, comme on le disait, la catégorie de la mode est un peu à la traîne par rapport à celle du sport. Donc, très clairement, ils ont créé c'est un marché à part entière dans les points de vente. Et Kiabi a lancé, il y a un mois, une nouvelle gamme qui s'appelle Extract, avec plus de 80 références, qui leur permet justement de prendre la parole sur ce segment du sport et de se dire que finalement, on peut proposer aussi des magasins hybrides, mêlant mode et sport.
Et c'est tout à fait justement ce qu'ils sont en train de développer. Kiabi a ouvert un premier magasin justement cette semaine avec une réorganisation totale de leur offre, avec cette nouvelle offre et la seconde main également. Merci beaucoup Mélanie, on passe tout de suite à notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Et Jules Bouscatel nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Jules, bienvenue. Bonjour. Sur le plateau de Focus Retail. Donc vous êtes le cofondateur de Sandrock, vous étiez aussi cofondateur de Monde Sport Club, c'est un studio de sport qui regroupe Dynamo, Punch et Rise. Aujourd'hui, vous lancez un tout nouveau projet, un lieu pensé comme un club de sport, mais autour de la longévité, la récupération. Le premier lieu d'ailleurs a ouvert cette semaine, lundi à Paris. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Alors, donc on a ouvert un nouveau lieu, donc effectivement, qui s'appelle Sandrock. On a trois espaces. Donc on propose le plus grand sauna de France, qui est absolument immense. Une zone de bains froids. Donc des bains froids, c'est quoi ? C'est des baignoires dans lesquelles il fait entre 5 et 10 degrés. Et enfin, une zone de relaxation dans laquelle on a également une tisanerie où on peut se poser, où on peut discuter, où on peut échanger, et dans laquelle on va organiser énormément d'événements.
Voilà. Alors quand vous dites bains froids, est-ce que c'est les bains glacés avec des glaçons, ce genre de choses, ou c'est juste la température ?
Alors, on peut mettre des glaçons. Mais c'est des bains où il fait où la température est autour de 5 degrés.
Donc là, on n'est pas du tout sur du sport.
Non, on n'est pas sur du sport, mais on est en revanche sur de la récupération.
Alors justement, expliquez-nous, c'est quoi le business model de ce nouveau lieu qui a pour but la récupération ?
Alors, les gens qui viennent chez nous ont plusieurs façons de venir chez nous. Soit ils viennent en payant des carnets de séances, donc si vous prenez une séance, c'est un petit peu plus cher que si vous prenez un carnet qui est plus conséquent avec plusieurs séances. Ou alors, ils s'abonnent. Et donc, ils peuvent choisir de s'abonner en illimité ou 4 fois par mois. Voilà.
C'est 45€ la séance.
La séance est à 45€, tout à fait.
Alors, des séances, effectivement, à 45€ pour une heure. Une heure et quart, c'est aussi élevé qu'un cours de sport, un cours de pilates, un cours de reformer.
En fait, nous, ce qu'on a toujours voulu faire, que ce soit avec Monday Sports Club à l'époque, mais encore aujourd'hui, c'est proposer du luxe abordable. C'est-à-dire qu'en fait, on propose une expérience de luxe, mais à un prix qui, si on veut se faire plaisir une fois de temps en temps, est possible.
C'est vrai que là, ici, vous êtes parti sur un constat basé sur l'évolution du marché du wellness. Vous expliquez que on est passé de la très haute intensité à des sports plus modérés, comme le retour sur l'engouement pour le pilates, le reformer. Finalement, c'est quoi la suite ici ?
Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Donc, il y a une première phase qui était le sport à haute intensité, puis ce qu'on a appelé le low impact, avec le yoga, la danse, la barre, le pilates. Et enfin, il y a une nouvelle tendance qui est arrivée aux États-Unis mais qui est en train d'arriver chez nous, qu'est-ce qu'on appelle la récupération et la longévité. La thèse de base est très simple, l'espérance de vie est de 85 ans, l'espérance de vie en bonne santé est de 65 ans. Comment est-ce qu'on fait pour, dès aujourd'hui, préparer nos dernières années, entre guillemets, pour qu'elles se fassent dans les meilleures conditions possibles et essayer éventuellement de grappiller quelques points de vie. Et donc, fort de ce constat-là, il y a énormément de concepts qui émergent, que ce soit dans le domaine du médical, que ce soit dans le domaine de l'événementiel, ou des nouveaux lieux qui se créent et dans lesquels on peut justement prendre soin de soi, prendre le temps de souffler, de respirer et de mieux récupérer après l'effort.
Mais on a le temps pour ça. Là, d'ailleurs, vous vous basez sur des études ou vous vous basez sur des concepts que vous avez observés aux États-Unis. Est-ce qu'il y a de réels bénéfices à se plonger dans un bain froid, à prendre une heure pour faire une espèce de méditation avec une tisane ?
Tout à fait. Alors, déjà, nous, on appelle ça la contraste-thérapie. C'est le fait de passer du froid au chaud. Comme je vous disais, on a un sauna, qui est un sauna classique finlandais où il fait à peu près 90 degrés, et on a des bains froids. Donc, l'intérêt de se plonger dans les bains froids, un, c'est excellent pour la circulation. Deux, ça vous fait augmenter significativement votre niveau de dopamine et d'adrénaline. Donc, ce qui fait que vous avez énormément d'énergie pour la journée. vous, si vous avez l'occasion d'essayer, vous verrez que tout au long de votre journée, vous aurez un esprit qui est plus clair. Et enfin, vous aurez accompli quelque chose qui est très difficile dès le début de votre journée, et donc après vous êtes paré pour l'ensemble de la journée pour accomplir plein d'autres choses qui sont tout aussi difficiles.
Ah, donc c'est plutôt le matin que le soir.
Vous pouvez le faire à n'importe quel moment, mais on peut le faire le matin.
Mélanie,
et alors comment vous avez créé votre stratégie de marque pour justement réussir à toucher cette cible spécifique qui cherche à gagner en longévité et...
Oui, alors, d'ailleurs qui est cette cible?
Oui, qui est cette cible? Oui.
Alors c'est une excellente question. Déjà, nous, la façon dont on s'est toujours positionné avec Monday, mais encore aujourd'hui avec Suntrock, c'est que à aucun moment on ne veut parler de santé en tant que telle. Nous, on parle d'émotion. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent chez nous, ils viennent avant tout pour vivre un moment exceptionnel. Et la conséquence de ce moment exceptionnel, c'est des bénéfices sur leur santé et sur la façon dont ils se sentent au quotidien. Si vous venez chez nous faire un sauna et des bains froids et que vous voyez ensuite comment vous dormez la nuit, vous rendrez compte que vous avez mieux dormi. Mais ça n'est à aucun moment pour nous un argument commercial.
Je pense que je suis votre cible. Hein.
C'est vrai ?
Ah bah oui, alors moi, totalement. Hein.
Mais oui, mais Emmanuel, ça, on connaît déjà les saunas, les bains froids. Enfin, je veux dire, on en fait dans toutes les stations de ski. À Paris aussi, il y a des spas qui existent. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée ? C'est quoi la différence ?
Alors, fondamentalement, nous, il y a deux façons de venir chez nous. C'est-à-dire que soit vous faites ce qu'on appelle des rituels libres. Donc, vous venez et vous bénéficiez des espaces comme vous le souhaitez. Si vous ne voulez aller...
Donc, comme dans un spa classique.
Comme dans un spa classique. Si vous ne voulez aller que dans le sauna, vous n'allez que dans le sauna. Si vous ne voulez aller que dans les bains froids, vous n'allez que dans les bains froids. Donc ça, brique numéro une. Brique numéro deux, c'est ce qu'on appelle des rituels guidés. Alors, des rituels guidés, qu'est-ce que c'est? Vous allez dans cette fameuse salle de relaxation et vous allez être accueilli par un guide qui va vous amener avec d'autres participants dans le sauna. Et dans le sauna, il va vous dispenser un cours. Alors, vous allez me dire, un cours de quoi? On va proposer des cours de méditation, de respiration, d'étirement, que des choses qui ne font pas monter le rythme cardiaque. Et donc, il va y avoir tout un show autour de ce cours. Ce qu'on aime créer, nous, c'est des expériences. Et donc après, ce guide va prendre l'ensemble du groupe et les amener dans les bains froids et surtout les aider à rentrer dans les bains froids, parce que c'est difficile de rentrer, grâce à des exercices de respiration.
Mais c'est ça, finalement, la plus-value. Moi, je trouve que c'est vraiment de faire ça en groupe, avec un coach, entre guillemets. Alors, Jules, là, vous ouvrez à Paris. Vous avez quand même en tête, depuis le début de l'ouverture, quand même de faire quelque chose de très international. Votre but, c'est quoi? C'est d'en ouvrir ailleurs en France ou...
Alors, nous, on a vraiment pour ambition d'en ouvrir, d'ici 5-6 ans, une dizaine. Mais pas uniquement en France. Ce qu'on veut, c'est principalement se concentrer sur les grandes villes européennes.
Emmanuel?
Ah, je suis déjà fan, moi.
Ah non, mais je suis vraiment... Avec très grand plaisir, on se ferait un plaisir de vous accueillir.
C'est vraiment gentil, mais je suis fan. Je trouve ça assez extraordinaire, un moment de respiration et de récupération. On est tellement tous... sous pression, je ne sais pas, mais voilà, une activité très intense, mais qu'on puisse, à un moment donné, savoir faire pause. Mais c'est extraordinaire. Mais
je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que nous, on a vraiment voulu créer un espace hors du temps. Donc, le téléphone est complètement interdit. Donc, le téléphone doit être dans votre casier. Les photos sont totalement interdites parce qu'on ne veut pas que les gens se prennent en photo ou que sais-je. Et si, par exemple, vous discutez avec quelqu'un qui est à côté de vous dans le sauna, on a mis à disposition des petites cartes et vous échangez votre numéro de téléphone avec la petite carte. Mais téléphone complètement interdit. Et on ne veut aucun écran.
Mélanie.
Et comment vous gérez le taux d'occupation de vos, à venir là, dans votre premier point de vente? Parce que finalement, il y a cette notion d'exclusivité qui ne doit pas être évidente à gérer.
Alors déjà... Quand j'aurai ce problème-là de gérer l'afflux, ce sera un très bon problème. Pour
vous
commencer.
Avez l'air de dire que ça partait bien.
Non, mais ça part. En vérité, ça part très bien. En fait, l'ensemble des séances se font sur réservation sur le site internet. Donc, vous allez sur suntrock.com et ensuite, donc, vous pouvez sélectionner la séance. Et ensuite, on capte le nombre de places qui sont disponibles dans la séance et donc ce qui nous permet de jamais avoir un lieu qui est trop plein.
Finalement, vous dupliquez un petit peu le modèle de Monday Sport Club, finalement.
On duplique un petit peu le modèle.
Merci beaucoup, Jules. On passe tout de suite à l'actu de la semaine. Alors là, tout autre registre, hein, Mélanie. Oui. Là, on parle d'une actualité, hein, c'est le nom de la rubrique. Donc, les Pokémon qui viennent de fêter leurs 30 ans après 3 décennies. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu finalement un vrai phénomène retail? J'ai l'impression que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui que quand j'étais plus petite.
Oui, alors c'est franchement la franchise la plus rentable, puisqu'elle génère en termes de revenus cumulés plus de 147 milliards de dollars, et ce depuis son lancement. Et en l'occurrence, on est loin devant Star Wars ou encore Marvel. C'est aussi la licence numéro 1 en France sur les jeux et jouets, et ce pour la cinquième année consécutive. Donc c'est assez remarquable, et ça ne s'arrête pas juste au gaming. Elle dépasse finalement cette licence, cet univers-là, puisque c'est également valable pour des marques comme Adidas qui ont décidé de lancer toute une collection pour revisiter l'univers de Pokémon.
On le voit, les licences cartonnent absolument dans les magasins de jouets. Est-ce que vous avez une idée du poids réel de ce que ça pèse dans le retail mondial?
Oui, c'est un pilier économique qui est très puissant. C'est plus de 385 milliards de dollars en 2025. Et en l'occurrence, on estime que très rapidement, on devrait être sur une croissance de plus de 60% sur les 10 prochaines années. Et sur 2025, c'était notamment plutôt l'alimentaire et les jeux vidéo qui en ont bénéficié de cette croissance.
Est-ce que vous diriez que c'est quand même un segment qui vise à lui tout seul de sécuriser les ventes pour un point de vente physique?
Alors, effectivement, une licence, ça permet de sécuriser, ou du moins de renforcer la désirabilité d'une enseigne. Et ça, les retailers l'ont très bien compris. Et finalement, on se retrouve même dans certains cas, c'est ce qu'ont fait certains retailers, à limiter le nombre de boosters vendus dans chaque point de vente pour s'assurer qu'il n'y ait pas des ventes spéculatives. Et on a aussi le phénomène qui s'appelle Kidult, où ce sont des adultes de 35-45 ans qui se mettent, parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat, à racheter les licences qu'ils appréciaient quand ils étaient jeunes. Donc ça, c'est un nouveau phénomène assez surprenant.
Merci beaucoup Mélanie pour votre expertise. Merci à tous les deux également d'avoir été avec nous sur cette émission. On ira tester Mélanie les bains froids quand même. Ça vous tente ou pas?
Oui, on va y aller.
Vous êtes invitée avec très grand plaisir.
Emmanuel est déjà convaincu. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau rendez-vous de Focus Retail. Et puis on se retrouve lundi dans la matinale de BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.